Avec mes invités aujourd'hui, nous allons parler des équipes du Rosaire. À quoi cela sert-il qu'une poignée de personnes, parfois pas plus de deux ou trois, se retrouvent pour prier? Eh bien, sur notre antenne, on a la conviction que ces petits groupes de prière portent l'Église tout entière et même plus, qu'elles peuvent vraiment changer le monde. Voilà pourquoi je suis vraiment très heureuse de consacrer cette émission aux équipes du Rosaire. Les équipes du Rosaire ont été créées en 1955 en France par le père dominicain, le père Ekem. Elles rassemblent aujourd'hui plus de 80 000 membres. Elles sont présentes en France et partout dans le monde. Comment ces équipes fonctionnent-elles? Comment le rosaire s'enracine-t-il dans nos territoires? Comment transmettons la prière du rosaire? On en parle donc avec mes trois invités, frère Hugues-François Rovarino, sœur Anne-Claire Danjard et Solise André. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors cette prière du rosaire, elle est, alors bien sûr, elle constitue un maillage territorial un petit peu partout grâce aux équipes du rosaire. On va en parler dans quelques instants, mais on va faire une petite séquence historique, si vous voulez bien, puisque avant même la naissance des équipes du rosaire, il y a la naissance et le déploiement de la prière du rosaire, tout simplement, avec Saint Dominique, qui lui-même a reçu cela de la Vierge Marie. Mais le rosaire était déjà une prière connue, qui se déployait partout avant la naissance des équipes du rosaire. Est-ce qu'on peut faire une petite séquence historique là-dessus,
frère François? Alors, bien sûr, oui, on peut faire une petite séquence historique. En réalité, il est vrai que la prière du rosaire s'enracine dans une dévotion à la personne du Christ. Et donc, c'est un courant spirituel cistercien, chartreux, qui a porté cette prière. Mais évidemment, pour l'instant, à cette époque-là, elle était limitée, si on peut dire, au cloître. Mmh. Et donc, là où, celui qui a lancé le monde, organisé la prière du rosaire, c'est surtout Alain de la Roche. Et donc, quitte à décevoir beaucoup d'auditeurs, c'est vrai que lui, il a dit que c'était Saint Dominique qui était l'initiateur. C'était un dominicain, Alain de la Roche. Et donc, pour authentifier, pour appuyer l'organisation qu'il proposait, et notamment la structuration des confréries du Rosaire. Les confréries du Rosaire, elles naissent en fait à Douai, donc dans le nord de la France. Elles naissent seulement en 1470. Saint Dominique était déjà mort en 1221. Ouais. Mais il y avait en revanche cette prière qui était portée par Saint Bernard et autres à la personne du Christ, la découverte des mystères de la vie du Christ. C'est cela qui va en effet féconder la prière du rosaire, parce qu'il y a des mystères comme la nativité, la visitation, etc., des moments essentiels de la vie du Christ.
Donc une prière cette prière ouvre la méditation.
Contemplative, elle est contemplative, elle est enracinée dans l'Évangile, elle va permettre par une organisation donc que va proposer Alain de la Roche, un frère dominicain donc qui est des Flandres, la province de Flandre à l'époque, et qui va la proposer dans le nord de la France. Et là, elle va avoir un succès populaire terrible.
Mmh. Et on donc, peut dire que la prière du chapelet est une prière populaire.
C'est pas lui faire offense. C'est une prière populaire. Il s'agissait bel et bien de faire passer une prière du cloître à une population tout venant. Qu'il soit grand, petit, habitué à la prière ou pas, confiant surtout en la Vierge Marie. Et donc, dans les églises, au départ, les lieux dominicains, mais très vite, c'est sorti de nos propres couvents et dans beaucoup de lieux où des organisations ont eu lieu, donc dans les chapelles du rosaire, dans beaucoup d'églises, en fait.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une prière qui a servi aussi, qui sert encore de catéchèse, au fond?
Mais qui sert de catéchèse.
Oui.
Ah oui, hein.
On parle du rosaire, de la prière du rosaire, comme l'évangile avec Marie. C'est une phrase qu'on reprend souvent. Donc, c'est revivre la vie du Christ avec Marie à travers cette prière. Et voilà, qui est ouverte à tous, comme tous, on peut tourner les pages d'une Bible. Mmh. Là, on va égrener le chapelet pour revisiter cette vie du Christ avec Marie.
Je pensais aussi à un élément qui aura, d'après les historiens du rosaire, qui a eu beaucoup d'importance, c'est que l'on proposait une prière à la portée de tout le monde, simple. Le Notre Père et le Je vous salue Marie, en contemplant un aspect de la vie du Christ et le proposer ensemble. Et la communion spirituelle qui fait partie de cette proposition, a en fait répondu à... Enfin, la population a répondu à cette proposition parce qu'il y avait une mutualité spirituelle. Ils appellent ça, enfin, ce qu'on appelle nous la communion spirituelle, mais en attendant, c'est ça qui a sans doute beaucoup joué pour la multiplication de ces confréries. Et donc, les équipes du Rosaire et autres mouvements, il y a beaucoup de mouvements dans le monde qui sont nés avec cette base-là, cette nourriture de base-là.
En tous les cas, en France, bien plus tard, donc en 1955, le père Ekam, lui, a une intuition, alors qui rejoint quand même l'intuition qu'avait eue déjà Pauline Jaricot, voilà, à Lyon au début du 19e siècle, de faire presque de ce rosaire quelque chose, de lui donner une dimension missionnaire.
Oui.
Ça, c'est assez nouveau, finalement, à ce moment-là.
Oui, c'est nouveau parce que... Bon, alors, Pauline Jaricot, dans son domaine en 1826, elle avait le souci de rendre la dizaine du chapelet, enfin, donc, un Notre Père dit « Je vous salue Marie », un gloire à Dieu. Elle avait le souci de permettre à des ouvrières de son, puisqu'elle était dans le monde des tissus à Lyon, et elle se disait, mais les ouvrières de mon père ne peuvent pas prier un chapelet dans la journée. Elles n'ont pas le temps, elles sont fatiguées, c'est pas adéquat. On doit pouvoir organiser, plutôt que de prier un chapelet, voire un rosaire, organiser des groupes de 15 avec chacun une dizaine. Et donc cette idée là encore de communion spirituelle,
ouais,
qui elle va façonner ce rosaire ou ce chapelet. Et donc le père Ekam, reprenant cette idée, propose en plus la prière à la maison, ce qui permettait aussi que des personnes qui ne veulent pas ou qui ne pensent pas, qui se sentent pas dignes peut-être d'être vues à l'église ou de compter parmi les chrétiens, puissent cependant aller être invitées par un tel pour participer à une prière.
Donc ça, c'est la prière qui rentre vraiment dans les foyers.
La vraie prière qui fera que la maison du chrétien est un lieu de prière aussi. Voilà.
Comment, du coup, on est passé à ce moment-là de cette intuition un peu missionnaire à eh bien, ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est vraiment un ancrage, un maillage sur tout le territoire? Ça, c'est quand même important, cette dimension de présence vraiment dans le territoire, dans les villages, dans les quartiers, la présence de ces équipes du Rosaire qui finalement fait un tissu, ouais, un tissu marial, quoi.
Mais le maillage, en fait, le père Ekam, un peu comme le père, Alain de la Roche, était en fait un organisateur. Je ne dis pas plus cela que contemplatif, au contraire, puisqu'il voulait justement permettre à la contemplation, évangéliser par cette invitation personnelle aussi. Mais c'est un organisateur, il a dit « ça ne pourra marcher que si j'ai des structures diocésaines ». Donc la France est organisée comme ça, avec des diocèses, et enfin l'Église est organisée de cette façon-là. Et donc il faut arriver à organiser, à structurer le rosaire et à l'organiser dans le cadre de la structure de l'Église. Et avec à l'époque il y avait des secteurs, des paroisses, des doyennés, enfin comme maintenant. Et donc il a réfléchi à essayer de mettre des... Et puis en faisant la confiance aussi à l'apostolat des laïcs.
Voilà, alors ça c'est un point très important justement, c'est sur lequel je voudrais, parce que vous frère Hugues François Rovarino, donc vous avez été aumônier national des équipes du Rosaire, aujourd'hui vous êtes aumônier régional des équipes du Rosaire, mais effectivement tout ce maillage il existe aussi parce que eh bien, comme je le disais tout à l'heure, dans les villages, dans les quartiers, localement il y a des personnes qui portent cet apostolat marial. C'est votre cas, Solis André?
En effet, c'est mon cas dans mon diocèse aux Antilles, en Guadeloupe particulièrement. Eh bien, dans mon diocèse, nous avons constitué aussi, pour pouvoir fonctionner, un bureau avec des adjoints, puisque nous sommes très nombreux aux Antilles. Enfin, en Guadeloupe, nous sommes à près de 2000 membres. On était encore plus nombreux, mais le COVID est passé par là aussi, auprès de nos membres. Donc, il y en a qui sont partis. Il y en a aussi qui ont eu peur et qui n'ont pas voulu continuer. Et donc, on est obligé de se constituer vraiment en ordre de bataille. Nous avons deux adjointes, nous avons des secrétaires, nous avons une trésorière où il y a toujours une adjointe et des membres. Et nous organisons des rencontres en secteur, des rencontres au niveau diocésaine.
Oui, vous êtes responsable à l'échelle du diocèse.
À l'échelle du diocèse, effectivement. Donc, mais c'est de nous que portent les directives. quelque part. Donc, avec les doyennés, on leur donne, pas des ordres, des directives, aller vers les paroisses. On est très nombreux, donc il y a des responsables de paroisse aussi, et les responsables de paroisse font le job auprès des équipes, des responsables d'équipe. Et voilà, donc, ce qui fait que dans les paroisses, il y a des équipes qui, malheureusement ou heureusement, sont à 14, 15 membres. Ils ne veulent pas scinder parce que, comme on a dit, c'est un mouvement fraternel, un mouvement où on se sent bien, où ceux qui ne peuvent pas aller à l'église, eh bien, sont chez eux et pouvoir prier, rencontrer les autres. Donc, voilà, les responsables de paroisse, chez nous, ont un rôle assez important.
Comment ça marche concrètement? Parce qu'à 14-15, on entend que c'est peut-être un peu, ça commence à être beaucoup parce que les membres des équipes, dans chaque équipe, on peut se retrouver à l'église pour prier, mais c'est chez les uns, chez les autres quand
c'est
même.
C'est chez les... Alors, justement...
À 14-15,
ça peut
commencer
à être compliqué. Même si on est 14-15, il y a parfois ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas toujours participer. On les appelle des veilleurs. Donc, on est en union. On peut avoir 14 membres, mais peut-être le jour de la rencontre, il n'y a que 8. Il y en a, ou alors on profite pour aller faire des rencontres chez les veilleurs.
Mais c'est important d'aller chez la personne.
Oui, ah oui, c'est ça qui fait.
Qu'est-ce que ça change pour vous? Pour vous, eh bien, qu'est-ce que ça change?
Eh bien, pour nous, les responsables d'équipe, quand elles reçoivent les membres, déjà, toute la famille est invitée.
Ah oui.
Peut-être pas tout le monde, hein. Le voisin est invité, même si le voisin n'est pas dans les équipes du rosaire, le voisin est invité, on reçoit Marie, la table est là, il y a la Vierge Marie, il y a la croix, eh bien on est content de se retrouver et surtout de partager la parole. C'est ce qui est important, de partager la parole, et à la fin de la rencontre, il y a la dizaine, et la dizaine, on va pouvoir prier, présenter à Maman Marie ben, nos intentions, soient joyeuses, comme les mystères, hein, douloureuses, et parfois, on reste après la réunion pour pouvoir discuter. Les gens, en tout cas, moi, dans mon équipe, j'ai deux personnes âgées, quand j'arrive, je fais ma réunion, eh bien, elles sont contentes. Elles sont contentes de... Elles m'ont dit, ah, ben, tu ne seras pas là le mois prochain. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'elles sont contentes d'avoir la parole,
oui.
De pouvoir discuter. Parce que quand on va à la messe, c'est vrai, je dis que quand on va à la messe, on n'a pas le temps. On écoute l'homélie, on écoute tout ça, mais on n'a pas le temps d'échanger. C'est en petit groupe ainsi qu'on peut vraiment dire, et peut-être il y a des rectifications. Si peut-être... on a un doute, on dit qu'on va poser au curé la question, on va se renseigner. Mais on peut s'exprimer, en tout cas. On peut s'exprimer sous sa foi.
C'est une sorte de parvis de l'Église, quoi.
Oui, on peut s'exprimer sous sa foi. Voilà. Il y en a qui sont dans l'erreur et qui après, mais je faisais ainsi. Mais voilà.
Quid de la question de l'engagement? Alors, il y a cette réunion mensuelle, donc ça, c'est le fonctionnement. Chaque équipe se retrouve une fois par mois, entre chaque réunion, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, nous avons notre dizaine quotidienne qui nous relie.
Donc, il y a vraiment un engagement,
un lien. Voilà, il y a une dizaine quotidienne via un mystère du rosaire que nous prions à l'aide de numéros. Nous avons un numéro, donc le numéro est attribué par la responsable d'équipe. Quand on fait partie de l'équipe, eh bien, la responsable nous donne un numéro. Et à partir de ce numéro, on essaie de voir avec le membre qui n'est pas initié comment faire. Et après, ça va, tout le monde arrive à faire. Et lors de nos réunions, de nos rencontres en doyenné, en secteur, on réactualise encore pour voir est-ce que tout le monde fait sa dizaine, comment vous faites votre dizaine.
Maintenant, ça nous rigole avons pas une... chez vous en Guadeloupe.
Non, nous avons une application, nous avons notre application là. On a une application, on leur montre comment ça se passe, l'application. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper avec l'application. Voilà.
Les outils de com, alors ça doit vous intéresser, ça va faire d'ailleurs, vous qui êtes coordinatrice de la communication du gros pèlerinage du rosaire qui se vit en ce moment à Lourdes. Ces questions-là,
on voit bien que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est au service de la prière de chacun pour rejoindre les veilleurs qui ne peuvent pas se déplacer. Moi, ce qui me touche dans ces équipes du rosaire, c'est à la fois la dimension communautaire, on se retrouve pour prier ensemble, mais aussi l'engagement plus personnel à prier une dizaine comme ça. Ce va-et-vient, ça dit bien ce qu'est la société aujourd'hui, ce besoin de se retrouver et puis se rappeler aussi, retrouver un peu d'intériorité pour prier cette dizaine chez soi, c'est une belle dimension.
Oui, sans doute, c'est cet équilibre-là justement qui fait le succès des équipes du rosaire, parce que ça aurait pu faire flop au bout d'un moment, mais ça continue, ça se développe. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en est de la moyenne d'âge? Est-ce qu'on a une idée de la population?
Alors, ça va dépendre des territoires.
Voilà. Parce que la 2000 en Guadeloupe, oui. Bon, là, c'est exceptionnel, non ? Je sais
ça
pas.
A baissé, hein, ça a baissé.
C'est vrai que les départements d'outre-mer ont quand même une ferveur mariale qui fait que souvent les diocèses sont parmi les plus nombreux. Mmh. Mais c'est pas le cas dans tous les diocèses. Et puis il y a eu des démarrages dans le temps. Hein, en 55, c'est Toulouse, c'est la région de Toulouse. Oui. Le Père Ekhem est à Toulouse. C'est peu à peu que ce mouvement, cette proposition séduit en dehors de la région. Et finalement, 20 ans plus tard, c'est national. Et après, cela deviendra international. Mais c'est aussi international. Mmh. C'est ça qui est assez stupéfiant. Parce qu'au départ, on parlait de cette dualité... dimension personnelle, dimension de communion. Au départ, cette réalité-là, elle était voulue par le Père Ekhem, parce que le Père Ekhem imaginait, pour sa part, être prêtre ouvrier. Donc c'est une autre planète, c'est une autre planète. Mais il était convaincu, comme dans les années 1940-1950, qu'il fallait de toute nécessité aider les hommes à vivre en chrétien. Donc nous, de nos jours, on dit souvent, en effet, la foi catholique, la pratique catholique, tout cela s'effondre, etc. Mais il y avait des pans entiers de la société qui étaient déjà loin de la pratique religieuse et de la foi catholique. Et donc, cela hantait même le cardinal de Paris. On dit bien qu'il n'y avait pas encore tous les diocèses autour de Paris. Et on disait, mais comment faire pour évangéliser toute cette population qui est sur notre territoire et qui est loin? Et donc, lui-même voulait être docker. Et il n'a pas pu l'être, mais il a gardé ce désir missionnaire. Et donc, ce désir missionnaire de simplicité.
Oui.
C'est la simplicité.
Ça, c'est vraiment son intuition, quoi.
Il a dit, le seul moyen de toucher tout le monde, c'est la simplicité.
Ouais. Et moi, je vois un bel aller-retour dans l'histoire, où l'histoire nous donne des leçons, comme ça, nous pose des choses. On voit que dans l'Église, aujourd'hui, les catéchumènes, il y a beaucoup de jeunes qui franchissent les portes de nos églises, des plus ou moins jeunes, d'ailleurs. Ouais. Et je trouve que cette prière des équipes du rosaire, c'est aussi peut-être un outil de les insérer dans la vie locale, dans la vie de l'Église, leur faire découvrir comment rejoindre notre Église. Rajeunir ces équipes, ce serait super. Ouais.
Est-ce que les jeunes, ils prient le chapelet, là, tous les jeunes qu'on voit là-haut, cette semaine avec vous au pèlerinage du rosaire à Lourdes, est-ce que ces jeunes-là, ils prient le chapelet?
Certains, oui.
C'est une prière facile pour les jeunes?
Oui, certains le prient, ne serait-ce que parce qu'ils sont déjà dans certains mouvements comme le scoutisme et autres, mais ou parce qu'ils sont plus ou moins liés à des mouvements, ils vont le faire.
Toute la nécessité de développer des applications et toutes ces choses-là, de les rejoindre. Oui.
Mais je veux dire, c'est tellement divers. Ne serait-ce que, on dit les jeunes au pèlerinage du rosaire, c'est un monde tellement divers. Eux-mêmes sont d'origine,
sont très diverses,
les écoles, les mouvements, les aumôneries, tout cela fonctionne, les endroits où ils sont, enfin...
L'enjeu, ce sera peut-être de faire passer chez les jeunes le chapelet comme un outil de décoration. Ils aiment bien se le mettre au bout du bras, parfois autour du cou, de leur faire découvrir la vraie prière du rosaire, du chapelet déjà, et qu'ils se l'approprient, qu'ils la découvrent. Ça, c'est à nous qui sommes en pastoral de les inviter à vivre ça.
Avec des chants, avec de l'intériorité et du chant.
Alors, chez nous, en Guadeloupe, dans le diocèse de Guadeloupe, nous lançons des dynamiques de jeunes du rosaire.
Alors, comment vous faites?
Alors, on invite les catéchistes, la catéchèse, avec le curé de la paroisse, à pouvoir, avec les responsables de paroisse, de constituer des groupes d'enfants de la catéchèse, leur apprendre déjà qui est Marie, les histoires avec Marie, et ainsi progresser et apprendre à faire le chapelet. Voilà, donc récemment j'ai eu à intervenir en fin de catéchiste de deuxième année pour montrer un petit peu ce que c'est que le chapelet. J'ai eu à expliquer les enfants et je leur ai donné un chapelet. Mais nous avons comme là le 11, ben samedi prochain, nous avons notre rassemblement de la fête du rosaire, parce que nous sommes ici, on ne peut pas fêter le rosaire. Alors, Ben, il y a un groupe de jeunes qui viendra, qui va faire une dizaine pour nous, qui va faire prier aussi un chant. Donc, nous les incluons aussi dans nos mouvements, dans nos rassemblements. Alors, je n'ai pas expliqué, mais nous avons des rassemblements diocésiens avec près de, il y a près de 1500 personnes à peu près, quand nous sommes en grand groupe. Et donc, tout le monde est invité. Et à ce moment-là, on peut avoir des membres nouveaux qui vont venir. On leur dit, bon, voilà, on apporte des feuillets, prenez, servez-vous si ça vous intéresse. Il y a mon numéro, il y a le numéro de la responsable de paroisse. Et bien, vous prenez contact avec ces personnes et voilà, vous allez pouvoir, ou alors le bureau national. Maintenant, dans le feuillet, il y a la fiche du bureau national.
Voilà, parce que tout est tellement bien organisé que les équipes ne sont pas abandonnées.
Non,
il y a tout ce qu'il faut.
Pas du tout, pas du tout. Non, non, non.
Il y a un petit livret pour cette fameuse prière mensuelle. Voilà. En effet, on envoie dans les différentes équipes un livret.
Avec la petite méditation du mois.
Pour l'essentiel, et justement, cette sorte de liturgie de la parole qui est pensée comme une liturgie du seuil. Le Père Clément disait, il faut une liturgie du seuil, c'est-à-dire qu'en fait, si on doit inviter des personnes qui ne pratiquent pas, qui n'ont pas de, il va falloir organiser, structurer, proposer quelque chose de simple, d'abordable, de beau, et puis avec des chants, des choses, on ne connaît pas toujours tous les chants, mais d'autres peuvent être pris, enfin voilà. Mais, et cette prière va suivre aussi le rythme liturgique. Si c'est une liturgie du seuil, il sera bon que le carême soit marqué, enfin qu'on sente que le carême est là, dans le livret aussi, pour que quand ces personnes reprendront le rythme d'une vie plus de vie
elles se reconnectent plus facilement.
Enfin, il y a toute une pédagogie qui est derrière ce petit livret si simple. Voilà.
Alors quand même, il y a une question qui me titille, je le disais un peu en introduction. Au fond, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change au monde, ces équipes du Rosaire? Alors vous nous parlez, Solis André, de la Guadeloupe, où voilà, vous êtes nombreux, on le sait, il y a des territoires où les équipes sont pauvres en termes de nombre, parfois deux ou trois personnes, des personnes qui sont fatiguées parce qu'elles font ça depuis des années et que dans l'équipe, beaucoup de personnes sont parties. Et pourtant, ça tient. Il y a un mystère qui fait qu'elles tiennent, même pauvrement, même petitement, elles tiennent. Et au fond, à quoi ça sert? À quoi ça sert de tenir dans cette équipe du Rosaire qui s'appauvrit?
Alors moi, je dirais que nous, quand on présente notre mouvement, on dit aux membres que notre dizaine quotidienne est très importante. Ça nous relie. On est dans une chaîne de prière. Quand nous faisons notre dizaine, nous présentons nos intentions à la Vierge Marie qui va faire monter vers son Fils, eh bien, on est seul avec Jésus. On peut lui exprimer notre foi et on se sent écouté. Et quand on va après en rassemblement, eh bien, on voit que nous sommes tous pareils. Donc, ça fait tenir, même si on a une jambe qui nous fait mal, eh bien, on voit que les gens viennent avec leur bâton. Parfois, les membres sont là. Les membres sont là, ils sont contents de venir. Donc, je pense que c'est cette proximité avec Marie, avec Jésus, qu'on peut retrouver chez soi déjà. Aussi, ça fait tenir. Et en paroisse aussi, bien sûr.
Ça porte l'Église.
Ça porte l'Église.
Oui, discrètement, parfois, mais ça porte l'Église.
Oui. Et puis, dans les paroisses, les curés nous reconnaissent, les équipes du Rosaire, on vit cette mission de baptiser dans tous les services de l'Église. Nous avons des catéchistes, nous avons des ministres de communion, nous avons des services pour le nettoyage. Tous les membres sont vraiment dans tous les services. Voilà.
Il nous reste 2 minutes et je voudrais qu'on termine avec peut-être la partie témoignage. On a commencé avec la séquence historique, on va terminer avec la séquence témoignage. J'aimerais bien que chacun de vous me disiez ce que le rosaire a apporté dans votre vie, cette prière toute simple, vous l'avez bien expliqué, toute simple, mais qui peut changer tellement de choses. Qu'est-ce qu'elle a changé dans votre vie, peut-être dans le passé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous apporte? On va commencer avec vous, Sœur Anne-Claire Danjard, vous qui êtes experte en communication. Est-ce que le rosaire, la prière du chapelet est un bon outil de communication?
Probablement. Alors, s'il faut témoigner, je témoignerai pour moi. La prière du rosaire, pour moi, elle a une dimension collective. Toute seule, j'avoue, j'ai du mal à prier le rosaire. Donc, en communauté ou avec d'autres gens, c'est plus facile. Et puis, nous, les Dominicains, on porte le rosaire autour de notre taille, à notre ceinture. Et chez nous, dans la vie apostolique dominicaine, on reçoit le rosaire d'une sœur. Donc, je sais que mon rosaire, d'une sœur décédée, Donc je sais qu'il a été prié par les sœurs qui m'ont précédée, et cette longue chaîne me porte moi aussi. Et voilà, c'est une manière de porter l'Église et de grandir à travers cette prière. Ah,
la communion, la transmission.
Exactement.
Solis André, vous qui êtes responsable diocésaine en Guadeloupe.
Oui, alors moi, ça m'apporte beaucoup de force, parce que moi, j'ai une famille aussi. Hein. Je suis responsable, mais j'ai une famille humaine avec moi. J'ai un époux, j'ai des enfants.
Et, oui.
et donc, il faut allier les deux, la responsabilité. Et je vois que quand j'ai une difficulté, eh bien, je dis, mais maman Marie, tu es là. Et quand nous avons nos rassemblements, je vois comment les membres sont contents. On m'appelle Sœur Solise. Sœur Solise, eh bien, je suis la sœur de tout le monde. Je suis avec tout le monde. Donc, je sens que ça m'apporte la joie, la sérénité avec Marie et les autres.
Merci, Solise. Frère et François.
Moi, je dirais que c'est la confiance. En réalité, enfin, quels que soient les moments où on est en forme, les moments où on l'est moins... la prière du chapelet, à cause de sa simplicité et de son enracinement avec les mystères du Christ, en fait, ça aide à faire grandir ou constituer ou nourrir la confiance en Dieu avec sous le regard de la Vierge Marie. C'est presque naturel au fond. C'est ça.
C'est presque la prière qui nous porte quand on a
prié. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait.
Voilà. Nous disons toujours Maman Marie. Voilà.
Et à la prière du rosaire, on peut ajouter une prière en 15 jours avec le frère Ekem. C'est le titre de l'ouvrage que vous avez écrit, frère François Rovarino. Priez 15 jours avec le frère Joseph Ekem, fondateur des équipes du rosaire. C'est un ouvrage qu'on trouve un petit peu partout, qui nous accompagne pendant 15 jours pour la prière. Merci beaucoup à tous les trois. Très bon pèlerinage du rosaire.
Merci beaucoup.
Merci aussi à vous, à Anne-Rose Jankovic.